femmes de caractère.
Rencontre avec des femmes qui agissent, écrivent, voyagent et qui pensent avec leur temps.
Françoise Ramel vous invite sur Radio Bourdunette à des rencontres avec des femmes inspirantes.
Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Bourdunette, septembre, entrée, rentrée, changement, envie, désir. En tout cas, Femmes de caractère est toujours là, et toujours là pour partager de belles rencontres. Des rencontres, alors, en direct, on peut dire, puisque même si aujourd'hui mon invité est en ligne par téléphone, eh bien, c'est une vraie rencontre que vous allez vivre avec nous par le biais des ondes de Radio Bourdunette et du podcast, bien sûr, sur Radio Bourdunette et Radio Braise. Alors, j'accueille, non pas dans les studios, mais dans son environnement habituel, Marie Desjardes de Kerenrouy. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Alors, je disais à l'instant qu'on ne se connaît pas. Et donc, j'aimerais savoir où tu vis et comment tu parlerais de cet environnement qui est ton lieu de vie.
Alors, mon environnement. Je quitte les Gobelins, je quitte le Val-de-Grâce et je remonte l'avenue d'Italie et je vois au loin deux grandes tours. Où suis-je ? Je suis dans le 13e arrondissement. Et je jouxte le quartier chinois. Je n'ai pas choisi cet environnement par hasard. Il n'y a pas de hasard. Je l'ai choisi parce que j'avais envie d'être à la fois près d'un environnement multiculturel et à la fois près du Paris 13e, des artistes à côté de chez moi, vers la droite de ma petite rue. Il y a des petites rues où les ouvriers avaient des maisons au début du XXe siècle et il y a des ravissantes petites maisons de couleur. Et dans mon appartement, j'aperçois à gauche et à droite deux grandes tours, les deux grandes tours de la Porte d'Italie, mais que je ne vois pas tant que ça parce qu'il y a un magnifique arbre dans un petit jardin de copropriété qui me permet d'être en pleine nature, près de Dame Nature. Voilà à peu près où je suis.
Paris, c'est ta vie depuis longtemps ?
Paris, c'est ma vie depuis longtemps. Je suis arrivée à Paris, j'avais 23 ans. Alors, ça va vous faire rire, mais... Je ne me considérais pas comme parisienne parce que j'avais vécu en banlieue, dans une grande maison, dans une ville qui s'appelle Vaucresson, une très jolie ville. Et quand je suis arrivée à Paris, j'avais du mal à me repérer dans le métro, je ne savais pas trop comment faire pour m'orienter. J'ai découvert la Sorbonne, Asnières, où j'ai eu mon premier travail, où je m'occupais d'enfants des pays du sud-est asiatique, de leur scolarisation. Et j'ai fini par m'installer à Paris et j'ai fait trois quartiers. J'étais dans le 15e arrondissement, dans le 17e, du côté des Batignolles pendant 11 ans. Et là, je suis arrivée dans le 13e, il y a 2 ans et demi.
Alors Marie, quand on s'appelle Marie Desjardes de Kerenrouy, j'imagine que ça raconte une histoire déjà rien que ça.
Ça raconte une vraie histoire. Je suis très attachée à ce nom parce que c'est le nom de mon père que j'ai perdu quand j'avais 18 ans. Et cette année... J'ai eu l'immense chance d'aller me promener du côté de Guingamp, qui sont les racines de ma famille côté paternel. J'ai été très émue. J'en ai profité aussi pour aller explorer les monts d'Arrée, qui sont une pure merveille. Du côté maternel, il faut dire que je vais en Bretagne depuis que je suis née, car mes grands-parents maternels ont acheté une maison de pêcheur dans le Morbihan, au-dessus de la Vilaine, dans une petite presqu'île où nous nous retrouvons tous les étés. Mais j'avoue avoir eu un coup de cœur particulier pour ce que j'appelle la terre de mes pères du côté de Guingamp.
C'était la première fois que tu retournais sur les traces de tes aïeux là-bas ?
C'était la première fois, tout à fait. La première fois.
Comment tu expliques le fait que j'imagine que tu dois avoir la quarantaine, quelque chose comme ça ?
Tout à fait.
Comment tu expliques que ce soit seulement autour de cet âge-là que le désir de racine, qui est différent du lieu où on retourne en vacances, au bord de mer, etc., où aller puiser un peu plus loin sur comprendre ce que c'est cet héritage familial. Comment tu t'expliques ça?
Alors, en fait, il y a deux facteurs. Le premier facteur est lié au fait que dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à voyager de façon inconsidérée et magnifique. J'ai traversé à peu près 3 pays par an depuis l'âge de 17 ans. Et chaque vacances était occupée à partir à l'étranger, explorer les contrées lointaines. J'ai eu un premier déclic en 2004 en arrivant au Sénégal, en Afrique. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour un fameux tour de la musique que j'avais monté pour une maison de production. quand j'ai découvert les crêperies bretonnes en plein Dakar, j'ai été extrêmement étonnée. J'avais pas encore bien compris ce que c'était que la décentration, qui est un phénomène cher à l'interculturel, qui est cher à mon cœur. Et c'est là où j'ai compris que les Bretons étaient véritablement de très grands voyageurs. Et ça a été le premier déclic de me dire, mais en fait, d'où je viens exactement? Voilà. Et je n'ai eu de cesse d'explorer, de réfléchir, d'essayer de connaître cette famille côté paternel qui est vraiment typiquement bretonne. Et j'ai eu envie, après avoir célébré les 25 ans de la mort de mon père, de venir un petit peu en pèlerinage du côté de Guingamp. J'ai tapé mon nom sur Internet, relié à Guingamp, et j'y ai vu plein de personnes que je serais très heureuse d'aller découvrir par un prochain petit pèlerinage autour de Guingamp et des environs. Voilà, c'est tout un fil que je relis, à ma vie de... Voilà, j'ai 45 ans, je viens d'écrire un petit texte drôle qui s'appelle « C'est la mi-temps ». Voilà, la mi-temps, c'est la moitié de ma vie, et je suis heureuse de véritablement renouer avec les traces de mon père et de ma famille paternelle.
Quand tu te rappelles ton adolescence, comment tu te vois adolescente?
Je me vois bouillonnante de projets, bouillonnante de plein de points d'interrogation, avec une grande question existentielle, mais où est-ce qu'on va après la mort? J'avoue que je me posais déjà cette question à l'époque. Est-ce que Dieu existe? Je n'avais aucune réponse. Je passais mon temps à lire des livres, à feuilleter des livres de philosophie, à avoir les jambes qui me démangeaient pour aller voyager. Et j'avoue que j'ai beaucoup lu, fait beaucoup d'introspection. Et j'avoue aussi que c'est grâce à une rencontre spirituelle que j'ai faite à l'âge de 15-16 ans au Mont-Saint-Michel que j'ai commencé à retrouver une grande paix. J'ai eu une adolescence bouillonnante de questionnements, une grande paix me disant que ben, si la vie était si belle, si parfois on traverse des épreuves, mais la vie est quand même magnifique et merveilleuse, elle est toute donnée vers l'amour, vers le don. Et voilà, j'ai reçu la grâce d'une certaine foi. Et je suis partie explorer le monde.
Avec, dans cette idée de voyage, c'était un peu comme aller emmener une lumière quelque part, mais aussi aller à la rencontre d'autres formes de lumière ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose
exactement,
comme ça?
Exactement. Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est que j'avais grandi dans une famille extrêmement nombreuse, côté maternel, où il y avait beaucoup de cousins et de cousines. Et j'avais envie de tracer ma route sur mon propre chemin. Je ne sais pas si ça te parle. Mm-hmm. J'avais vraiment envie de quitter cet environnement familial pour aller explorer le monde. J'avais soif d'absolu.
Est-ce que tu avais l'impression d'un carcan ou c'est juste toi, tu te disais, voilà, sans avoir besoin de t'affranchir d'une certaine pression sociale ou familiale, c'était vraiment l'envie de voir ailleurs? Ou est-ce qu'il y avait quand même un carcan dont tu sentais ou pressentais que ça pouvait être un petit peu coercitif dans ta vie de femme, hein?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, j'ai toujours été très, très attirée par la diversité. Et je trouvais que dans cet environnement familial, en Bretagne Sud, on était un peu dans l'entre-soi. Et j'avais soif d'ouverture, soif de rencontre, soif de dialogue, soif de comprendre le monde. C'était vraiment... C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Jamais, jamais. J'ai fait par la suite des études d'allemand parce que j'étais très attachée à la beauté de la littérature allemande, de la philosophie allemande. Et même si ça ne parle pas à beaucoup, j'ai tellement entendu ça plein de fois, je peux comprendre que cette langue est belle. Moi, je trouvais que cette langue était belle. C'était aussi cette soif de réconciliation européenne après les traumatismes du XXe siècle. Et j'ai fait une maîtrise d'allemand, je suis partie en Autriche en Erasmus. J'ai été explorer ces pays germanophones qui sont qui nous paraissent parfois très loin de notre réalité française et bretonne. Et ça m'a énormément enrichie et j'ai poursuivi cette recherche interculturelle par la suite en allant dans des contrées beaucoup plus lointaines.
Alors, je pense que c'est le moment de nous lire un premier texte, Marie. Est-ce que tu veux nous situer ce texte? Quand est-ce que tu l'as écrit
Bien sûr. Alors, pour mes 40 ans, c'était il y a 5 ans, mais le 1er novembre prochain, ça fera 5 ans que je suis rentrée. Je suis partie, j'ai monté en fait un tour du monde. Et je suis partie faire un tour du monde en 8 mois, en solo, où j'ai eu la chance de traverser une dizaine de pays. Et voilà, j'ai fait sponsoriser ce projet par une grande entreprise et j'ai été un petit peu journaliste, sociologue, consultante en interviewant à peu près 120 personnes dans l'hémisphère sud pour comprendre les grands codes des cultures que je traversais dans lesquelles cette entreprise était implantée. Mmh. Et en parallèle, je voyageais plus que de raison après avoir mené ma petite mission. Alors voilà, là je suis en Namibie, qui est un pays qui colle à l'Afrique du Sud, et je suis, vous allez bientôt le voir, à cheval. Je me faufile dans la savane au son des clics de leur langue singulière pour découvrir avec eux les termites, les produits des arbres, calmant les maux d'abdomen, les racines, les baies et les fruits du désert qui constituent leur nourriture quotidienne. Mon oreille européenne décortique avec attention les dialogues presque silencieux avec ces familles qui m'accueillent au sein de leur tribu, sans attente, sans demande. Au pas de mon cheval, au trot, au galop, je m'élance dans les dunes, accompagnée de ma guide germano-namibienne qui me conduit en haut de collines à pentes raides, où je frôle des antilopes. Je suis épuisée, mes yeux sont desséchés par le soleil brûlant, mais je garde l'oreille attentive aux litanies des sannes qui surgissent de lieux invisibles. Ma monture semble habituée à ces mélodies fragiles qui ponctuent son chemin, mais sa cavalière inexpérimentée est effrayée par ses minces silhouettes, apparaissant brusquement, semblant sortir de nulle part. Je m'accroche à la douceur de la voix, de leur voix, aux cliquetis étranges qui ponctuent le silence de ma course. Ils chantent, paraît-il, la prière à la lune.
Donc vraiment...
Voilà cette épopée extraordinaire où j'ai mis de côté ma peur du cheval et j'ai été courir, je me suis élancée sur le dos d'un beau cheval noir, devancée par ma guide germano-namibienne avec laquelle j'avais pu m'entretenir en allemand, car comme vous le savez, la Namibie est une ancienne colonie allemande, et nous nous sommes élancés dans les dunes, laissant ceux qui faisaient quelques pas près de la maison de nos hôtes, et j'ai rencontré ces tribus qui surgissaient de nulle part, et la poésie de cette balade et de ce galop endiablé à travers les dunes m'a marqué à vie, je pense.
Oui, il y a le vent de liberté, il y a aussi, je pense, la conscience d'un privilège suprême, malgré tout.
Absolument. La conscience d'un privilège suprême, la conscience aussi d'avoir pu rencontrer des gens extraordinaires, des Namibiens d'origine africaine et des Namibiens d'origine allemande. Il faut le savoir quand même, la Namibie a été l'un des pays les plus traumatisés du début du XXe siècle, hein, puisque les colons allemands ont perpétré sur leur terre, le génocide d'une tribu de 70 000 héréros. Au moment de leur emprise coloniale, qui a été reconnu, je crois, en 2004 ou en 2005 par l'Allemagne comme étant un des premiers génocides. Et ce peuple pacifique reste tout de même marqué, bien évidemment, dans leur chair, par ce traumatisme collectif. Et donc, j'ai pu rencontrer les uns et les autres et échanger avec eux. Et cette alliance d'être avec cette guide germano-namibienne qui était descendante de colons et de discuter avec ces tribus était pour moi une belle source d'espérance, en fait.
Alors, on va y revenir en deuxième partie d'émission. Je te propose, sans transition, d'écouter ton premier choix, puisque dans Femmes de caractère, c'est vous qui faites la programmation. Et donc, on écoute Rolling in the Deep, Adèle. À tout de suite. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Keep me thinking that we almost had it all. The scars are Alors, à cheval ou en roulant dans les profondeurs, Rolling in the Deep avec Adèle, nous sommes toujours avec Marie Desjardes de Kerenroué sur les ondes de Radio Brodjenette. Nous étions en Namibie, donc dans le sud du continent africain. Marie, quand tu n'es pas en Afrique, tu vis ou tu as gagné ta vie en tout cas grâce à toutes ces rencontres, à cette passion que tu as développée pour l'interculturel. Tu veux nous parler un petit peu de quels sont tes savoir-faire que tu transmets?
Alors en fait, merci beaucoup de me poser la question. Si tu me permets, je vais poser déjà une définition sur l'interculturel qui vient d'un sociologue absolument extraordinaire qui s'appelle Michel Socquet, dont je recommande le livre à chaque auditeur, qui parle de l'intelligence de l'autre. Et je trouve que c'est une magnifique définition. Cette intelligence de l'autre, en fait, elle est venue, c'est comme une vocation qui a grandi en moi. Je crois que le terreau familial a beaucoup compté pour moi dans l'éclosion de cette vocation interculturelle, parce que ça va vous faire rire, une soixantaine de cousins germains sur 10 familles. Ma grand-mère a eu 10 enfants. Et à peu près toutes les tendances politiques et religieuses de la France y sont représentées. Et j'ai entendu, enfant, beaucoup de discussions passionnées, passionnelles, passionnantes et parfois un petit peu décevantes sur des conflits idéologiques qui pouvaient traverser ces familles. Et j'ai vraiment développé en mon cœur le souhait de la réconciliation. Je pense que c'est pas un hasard si jamais je me suis tournée vers des études d'allemand. Ma grand-mère avait la dureté de me dire, quand j'ai commencé des études d'allemand, tu fais du Bosch. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis rendu compte en étudiant avec les germanistes de la Sorbonne que les jumelages avaient été une invention franco-allemande d'après-guerre, absolument magnifique, pour vraiment faire des démarches de paix après ce traumatisme de la guerre de 40. L'interculturel, c'est aussi pour moi une manière véritablement de rentrer en relation avec des personnes dont je suis peut-être culturellement ou socialement un peu lointaine. J'ai toujours grandi dans un milieu de la petite aristocratie dans l'Ouest parisien, et j'ai toujours été attachée à la différence. Et j'ai toujours beaucoup eu de mal avec les préjugés que pouvaient avoir certaines catégories de population envers les personnes issues des migrations. C'est la raison pour laquelle j'ai monté ma petite entreprise en 2009, où ma vocation s'est vraiment épanouie, où j'ai vraiment voulu développer des projets d'inclusion. Et je suis allée dans le 93, dans 3 villes, à Bondy, à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Clichy-sous-Bois, d'où sont parties les émeutes de 2005. Et je travaillais à la Cité des Bosquets et j'ai monté des projets de découverte mutuelle de la culture française et des cultures d'origine de ces personnes, pour susciter un dialogue et une compréhension mutuelle, notamment auprès des femmes du Centre social intercommunal de la Duise, qui étaient en cours de français langue étrangère, et pour lequel j'ai développé un atelier autour des 5 sens pour ces femmes qui habitaient en France depuis plus de 25 ans et qui avaient quelques difficultés à parler français, ont véritablement compris par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, ces 5 sens. On leur a donné un petit peu le goût de la culture française, tandis qu'elles-mêmes s'exprimaient sur leur culture d'origine pour nous faire goûter leur richesse.
C'est comme si tu prends ton truc sous ton bras et tu y vas, quoi.
Alors ça, je te remercie de souligner ce. J'avoue que, comme tout le monde, j'ai beaucoup de défauts, mais je crois que j'ai une qualité, c'est que quand j'ai une idée ou quand j'ai une passion, je vais jusqu'au bout.
Et tu vas seule.
J'y vais seule.
Ah oui.
J'y vais seule. Alors bien évidemment, je me suis entourée de personnes. Mais une fois que j'ai mon idée, c'est comme mon tour en Afrique, c'est comme mon tour du monde, c'est une idée qui a surgi comme ça, et je construis le projet et je vais jusqu'au bout, en fait. Et là, j'ai vraiment été démarcher un maire du 93, qui m'a, au début, il m'a dit « j'ai pas de budget », je lui ai raconté ce que je souhaitais faire. À la fin du rendez-vous, il m'a dit « et ben quand est-ce que vous commencez ?» et ça a été extraordinaire. On a aussi développé des rencontres musicales avec les jeunes du service jeunesse de Montfermeil. J'ai fait venir, en fait, j'avais un copain qui est d'origine vietnamienne, qui est soliste à l'Orchestre national de France. J'ai donc emmené des jeunes à des répétitions à l'Orchestre national de France à Paris, des jeunes de Montfermeil, et des solistes de l'Orchestre national de France se sont déplacés à Montfermeil pour un concert interculturel où il y avait la petite chorale d'enfants auquel j'avais appris quelques chansons françaises, les jeunes qui faisaient du hip-hop, et on a terminé par Mozart et Schubert avec l'Orchestre National de France devant toutes les mamans, et la salle était remplie, c'était extraordinaire.
Là, il y a comme une utopie réaliste qui s'exprime là. D'ailleurs, tu es encore dedans quand tu en parles avec conviction. voilà, on a envie de t'ouvrir toutes les portes là et te dire bah viens, viens Marie. Donc l'art c'est un des leviers que tu utilises pour justement aller toucher du doigt les différences, la sensibilité, revenir à ce qui nous unit au-delà des langages.
Absolument, parce que lorsqu'on dit lorsqu'on est avec, quand on a deux cultures l'une en face de l'autre, il peut tout à fait arriver qu'il y ait la barrière linguistique. Et là, c'est sensoriel. C'est l'oreille qui écoute, qui n'entend pas, mais qui écoute, qu'il faut lui apprendre à écouter. C'est l'œil qui décrypte un paysage, qui décrypte une œuvre de beauté, qui regarde un tableau. Et les saveurs aussi culinaires, c'est pour ça que le livre que j'ai écrit de mon tour du monde, la première partie c'est autour des cinq sens. C'est comment est-ce que je découvre sensoriellement ces cultures qui me sont si lointaines, pour lesquelles j'ai peut-être du mal à rentrer en relation, je dirais, avec mon oralité, parce que mon anglais n'est pas aussi extraordinaire que ça. Puis j'ai été dans les régions hispanophones. Mais en revanche, la rencontre sensorielle est absolument fondamentale pour s'ancrer, pour être incarné dans une culture qui devient toute vivante, en fait, qui se révèle à moi.
Oui, donc on est dans l'approche sensible, là. Le premier travail, c'est de se déconnecter de son propre cerveau. Il y a quelque chose comme ça, c'est ça?
Exactement, c'est se déconnecter de son propre cerveau, tout à fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a pour moi la rencontre sensorielle qui est fondamentale autour des cinq sens. Il y a plein d'ateliers à créer autour des cinq sens. Dans cette rencontre mutuelle, je parle bien de rencontre mutuelle. Et il y a aussi le partage. Le partage autour des visions du monde que l'on a, de la manière dont on appréhende les langues et les communications, les cultures professionnelles. Ça, c'est un autre atelier que j'ai développé par la suite, grâce aux apports de Michel Sauquet, qui a écrit des livres extraordinaires sur l'interculturel, et qui donne une véritable méthodologie d'indicateurs culturels qui sont prégnants dans toute culture, méthodologie dont je me suis servie pour mon tour du monde. Et grâce à cela, j'ai construit des ateliers interculturels où on fait réfléchir des gens de cultures différentes sur leur manière de penser la vie, de regarder la vie. Donc là, c'est le deuxième niveau.
Est-ce que tu veux nous lire un deuxième texte pour qu'on entende ta voix à l'écrit, Marie?
Bien sûr. Alors, je suis en Inde et je suis avec des amis près du Pakistan. Nous sommes à 50 km de la frontière pakistanaise, mais le désert traverse les deux contrées sans se soucier de la folie des hommes. Parvenus en haut d'une de ces gigantesques vagues de sable, nous voyons une famille se diriger vers nous. Ce sont des musiciens. Ils font partie de la caste des intouchables, caste officiellement supprimée, mais si présente dans les mœurs et les comportements. Ils sont voués aux métiers les plus vils, les plus méprisés. L'un des nôtres a l'idée de génie de sortir sa guitare. C'est de concert que pendant 1h30, les deux groupes se répondent, se regardent, timides, puis rassurés. Les enfants se meuvent gracieusement sur les mélopées des parents. Quant à nous, nous passons de louanges charismatiques à la pop. Il n'est nul besoin de parler, mais d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Quel sort pour les intouchables? Comment imaginer que nous sommes à quelques minutes du Pakistan, libres, fumeurs, moqueurs? Devons-nous tendre la main? Je reste silencieuse en contemplant ces musiciens français et indiens qui nous permettent en quelques sons de communier et de se rencontrer. Ce dialogue se construit sans mots. Les tonalités étranges d'un violon ensablé et des voix rauques se répondent. Il est temps de descendre en soi, de se laisser porter par la profondeur de l'échange. Les bobos que nous sommes se sont tus. Les intouchables ne cherchent plus à nous séduire ou à tendre la main. Chacun joue sa partition dans une connivence silencieuse, répondant aux accords de l'autre.
Merci Marie pour ce nouveau voyage, donc cette fois en Inde. Et d'ailleurs, c'est pour ça, j'imagine, que tu as choisi les Indes galantes comme deuxième morceau.
Alors, j'ai choisi ce morceau et cette interprétation pour deux raisons. Tout à fait, j'ai choisi ce morceau, les Indes galantes, parce que je le trouve absolument magnifique et que cette interprétation de ces Indes galantes, je recommande à tout le monde d'aller regarder, on peut le regarder sur YouTube, est une véritable rencontre interculturelle avec ces Indes galantes et une troupe hip-hop qui danse sur cette musique. Et c'est bouleversant de vérité et d'humanité.
Alors c'est par Capella Mediterranea Musique. Chers auditeurs, chères auditrices, toujours en studio pour moi et puis près du quartier chinois pour Marie Desjard de Kerorwe. Marie, j'avais envie de retourner en Afrique avec toi après les Indes galantes. Là. musique Afrique, ce n'est pas juste une jolie rime, c'est aussi une réalité et dans ta vie et dans la vie de beaucoup de voyageurs. Comment tu parles de ça et comment tu en as fait un projet dans ta vie à toi ?
Alors là, je vais vous raconter une fioriti qui est quand même très très drôle. C'est que j'étais en master en interculturel en 2004 et j'avais déjà travaillé 3 ans. Et mon professeur d'interculturel m'a dit c'est la musique qui fait briller tes yeux. Je suis fille de violoniste et j'ai baigné intra-utéro en écoutant Bach, Mozart et Chopin. Et je rentre à la maison et je tape sur Google musique, Afrique. Et je vois que c'est l'année de la francophonie en 2004 en Afrique de l'Ouest. Et le soir même, j'avais construit mon projet. Et donc, je suis allée dans une église pour déposer une bougie, et ce soir-là, il y avait des gens qui étaient rassemblés. Et il fallait tirer un petit papier. J'ai été tirer un petit papier, et je suis tombée sur une citation de Sam Cécile, qui est la patronne de la musique. Je trouvais ça assez extraordinaire. Et donc, j'ai été proposer ce projet à une petite agence de production musicale, en leur disant, je vous propose de partir chercher des talents en Afrique de l'Ouest, c'est l'année de la francophonie. Et j'ai appelé ça le tour de la musique en 80 jours. Et je suis partie au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Togo. J'ai eu l'immense chance de rencontrer beaucoup de musiciens. Je suis partie par la route, j'ai tout fait par la route. Et je me souviendrai toujours de cette rencontre à la fin de mon séjour au Sénégal, qui était mon premier pays, avec un reggae-man tout fatigué, tout jeune et tout fatigué, qui me tend sans aucune prudence sa maquette de CD. Et je rentre, j'étais fatiguée moi aussi, donc je mets ça dans mes trésors. Et je prends un taxi-brousse pour partir vers le Mali. J'étais en train, j'étais à pied, j'étais en taxi-brousse, enfin, c'était très long. Et je me souviens très très bien que j'étais sur cette route extrêmement chaude, et je mets mes écouteurs, et là ça emplit mes oreilles, et j'entends une voix extraordinaire qui sort de mes oreilles. Et je me suis dit, c'est lui que je veux produire. Et c'est lui qu'on a produit en fait. Il s'appelle Dren Maxime Amar, il est très connu au Sénégal. On lui a sorti un CD, et ce coquin, il m'appelle un jour, alors que j'étais rentrée en France, après que son CD soit sorti, me disant, Marie, je fais un concert, je crois que c'est la Cigale, je fais l'ouverture du festival de reggae, donc il est reggae-man. Et il me dit, je fais l'ouverture du festival de Tikenja Fakoli, c'était quand même pas rien. Mais Tikenja Fakoli, moi, en fait, j'étais pas tellement habituée au reggae, mais j'avais été séduite par sa musique. Et donc, je n'avais pas regardé qui c'était sur Internet. Non, mais vous allez rire. Et donc, j'arrive dans cet endroit. Il m'avait dit, tu traverses, tu dis que tu es mon agent et tu vas monter dans les loges. Donc, je traverse, je vais à la sécurité et je dis, je suis l'agent de Dren Maxime. J'étais avec mon petit tailleur d'imprésario et tout. Et il me dit, oui, c'est ça, elle lise tout ça. Et alors, je dis, non, mais je vous assure, il faut vraiment que je passe. Et Dren me voit, il claque des mains, il me laisse passer, on monte, la porte s'ouvre et je vois un immense reggae man, Rasta et ça, très beau. Et il me dit, tu t'appelles comment? Je dis, Marie, et toi, tu t'appelles comment? Chicken Jaffa Coli. J'ai eu la honte de ma vie.
Mais moi, je trouve que tu as beaucoup de culot et j'aimerais savoir d'où vient ce culot. C'est-à-dire comme si tu étais un peu une extraterrestre par moment dans certaines situations, parce que ce que tu viens de nous décrire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu y vas un peu naïvement. Voilà. Et comment tu expliques ce culot inouï qui te permet d'ouvrir tellement de portes, en fait?
Alors, je pense que côté maternel, il y a un petit côté artiste un petit peu barré. Donc j'ai toujours aimé ce côté un peu folklore et je suis une grande passionnée. Donc en fait la passion me donne toujours des ailes et je suis capable véritablement de traverser. Enfin je me souviens tout le temps. J'ai écrit mon mémoire sur Vatican II. C'est quand même pas banal hein, en allemand. Sur Vatican II. Donc là je change complètement de sujet et je l'ai envoyé au Vatican. J'ai écrit au pape. Pour lui envoyer en allemand. Et j'ai reçu une lettre. Voilà. C'est ce genre de choses que je fais de temps en temps. Quand je crois à un projet, je vais jusqu'au bout, en fait.
Et donc, ce projet, pour revenir
à
l'Afrique, ça a donné un livre quand même, Le Monde dans tous les sens. Quel joli titre.
Alors, Le Monde dans tous les sens, c'est un petit livre que j'ai écrit à la suite de mon tour du monde, qui reprend toutes ces expériences. Et l'objectif était véritablement de pouvoir donner ces témoignages de rencontres interculturelles et aussi leur laisser la parole. C'était mon obsession dans la deuxième et la troisième partie, je leur laisse la parole. Voilà, c'est un plan en trois parties, le corps, le cœur et l'esprit. Comment est-ce que par ces trois dimensions, qui sont les dimensions d'un être, et ben dans une culture, il y a aussi un corps, un cœur et un esprit, on rencontre les personnes. Et donc, je leur laisse la parole et ils dévoilent un petit peu la culture de leur pays après que j'ai raconté l'expérience sensorielle.
Est-ce que tu as redécouvert, par l'écriture, des aspects de ton voyage qui t'avaient un peu échappé parce que dans le moment, dans l'instant, dans la gestion du quotidien, dans l'émerveillement d'une rencontre ou d'un paysage, on ne peut pas tout capter. Donc, est-ce que le moment de l'écriture, c'est le moment où, justement, comme l'alambic, on ressort des choses plus fines, plus subtiles et avec un parfum, justement, qui peut durer plus longtemps?
Merci de poser cette question, c'est extraordinaire comme question. Je me souviens que j'ai écrit un texte, il est trop long pour vous le lire, là, mais un texte sur le fait que quand je suis arrivée en Australie, ça faisait 4 mois que j'étais en Asie. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que j'en avais assez de manger du riz et du poulet. Et ça, c'était au niveau gustatif, j'entends. Et le plat, premier soir où je suis arrivée en Australie, je suis allée dans un restaurant et j'ai commandé une entrecôte XXL avec un verre de vin immense. Et j'ai écrit ce texte dans mon livre et j'avais les larmes qui coulaient à la fois de rire et de tendresse pour ce souvenir impérissable du goût, enfin, de la sensation du bonheur qui a été le mien quand j'ai dégusté cette entrecôte. Et qui m'a ramené chez moi. C'était un peu à la fin de mon tour du monde. Et ça m'a rappelé cette expérience incroyable que j'ai faite en maîtrise d'allemand. On avait regardé, je ne sais pas si tu te souviens, de Goodbye Lénine. Mm-hmm. Et dans Goodbye Lénine, il y a un moment, il y a un des fils qui donne des cornichons à sa grand-mère. Enfin, c'est un passage avec des cornichons.
Oui, parce qu'il doit retrouver les vieux bocaux.
Exactement. Et en fait, j'ai entendu, on le regardait en classe, par rapport à l'interculturel, et j'ai entendu quelqu'un pleurer, donc je me suis retournée, c'était une fille de ma promo, et elle avait vécu petite en Allemagne de l'Est. Et elle n'avait jamais retrouvé, c'était une torture pour elle de voir ses cornichons au cinéma, parce qu'elle n'avait jamais retrouvé à la réunification le goût de ses cornichons d'Allemagne de l'Est. Mmh. Et ça, en fait, je me suis rappelé cette fioriti quand j'étais dans mon restaurant, assinée, en train de déguster mon entrecôte. Ça faisait 4 à 5 mois que j'avais dégusté d'entrecôte et pas bu de vin rouge. Et j'ai écrit ce texte, et donc merci pour ton intuition sur l'écriture. J'avais noté quelques mots sur mon petit carnet, j'écrivais tout le temps des petits mots, mais quand j'ai exploré cette sensation du goût, J'ai écrit un texte vraiment autour du goût et de la sensation de l'entrecôte, avec les souvenirs d'antan de la France qui me rappelait un peu vers elle, hein, à la fin de ce tour du monde.
Parce que c'est assez étonnant. C'est ça que tu expliques justement, que ce soit dans les ateliers ou dans tes témoignages, quand on te sollicite aujourd'hui plus ponctuellement. C'est ça aussi l'interculturel, c'est ne pas s'interdire d'explorer son propre rapport à ce qui fait culture en nous, par notre histoire, par nos trajectoires, par nos envies, nos manques. C'est ça aussi l'interculturel.
C'est fondamental ce que tu dis. C'est fondamental, c'est-à-dire que je pense que la recherche interculturelle, elle est vraiment constitutive de toute une vie. Tout à l'heure, je parlais de la mi-temps de mes 45 ans, et en fait, c'est assez extraordinaire parce que je me rends compte que j'ai tendance à dire que l'interculturel, c'est l'image des poupées russes, des babouchkas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rencontre une personne, qui qu'elle soit, de n'importe quelle culture, de n'importe quel âge, de n'importe quelle nationalité, on voit la partie visible de la babouchka extérieure, d'accord ? Et qu'en fait, on enlève la babouchka, il y en a une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, et en fait, nous-mêmes, nous sommes une multiplicité de petites babouchkas intérieures, puis après avec la coquille extérieure, et nous sommes appelés par la vie à aller creuser toutes ces influences, tout ce qui en fait notre personnalité, notre vocation, nos passions, à peut-être en mettre de côté, hein, je pense qu'il y a un besoin aussi de mettre de côté certaines choses et à retrouver la liberté vers l'ouverture vers l'autre, quoi.
Alors, on n'a pas le temps d'aborder ce sujet-là parce que le temps passe vite et te rencontrer, c'est particulièrement riche, Marie. Voilà, ce que tu dis est valable pour les femmes qui ont la chance, les femmes et les hommes d'ailleurs, les babouchkas hommes, qui ont la chance de pouvoir effectivement faire ces explorations. Voilà, puisqu'on sait que dans certains pays, finalement, l'enjeu du pouvoir est d'empêcher. D'empêcher le corps, comme on dit, le corps, le cœur et l'esprit, hein, d'accéder à sa réalisation, surtout quand on est une femme dans certains endroits. Voilà, pensez exactement. Notamment à toutes les femmes afghanes, là, mais il y en a tellement d'autres dans d'autres pays et qui ne sont pas forcément médiatisées. Bref, donc on n'a pas le temps de parler de ça, mais en tout cas, j'imagine que ce sont des questionnements aussi qui ont traversé, qui traversent encore aujourd'hui bah voilà, tes propres regards.
Oui,
sur le monde dans tous les sens et un monde en quête de croyante que tu es et la foi que tu
absolument.
As reçue.
Alors, et tu as.
Oui,
ouais, ce qui m'a beaucoup marqué en fait dans cette introspection, parce que l'interculturel est une introspection à vie. Hein. On passe son temps à détricoter, à retricoter, à rechoisir, à délaisser, à mettre de côté. C'est absolument passionnant. Et celle qui m'a donné véritablement. Le sens de cette quête, c'est Etienne Issoum.
Ah, donc c'est la femme inspirante que tu as choisie ?
C'est la femme inspirante que j'ai choisie.
C'est qui ?
C'est cette jeune femme qui habitait, alors je ne sais plus si en Allemagne ou dans les Pays-Bas, qui a écrit ce livre Une vie bouleversée et qui a fait un long parcours psychanalytique avec un psy qui était plus ou moins, du coup, qui est plus ou moins devenu son. En tout cas, pas son compagnon, mais dont elle a été très très proche, et qui a été malheureusement déportée à Auschwitz, et qui a écrit qui est morte là-bas, et qui a écrit des phrases absolument extraordinaires sur cette fameuse vie intérieure que notamment nous, les femmes, nous pouvons avoir. Je ne dis pas du tout que les hommes n'en ont pas. Hein, attention, hein. Mais elle est éminemment féminine et introspective, et elle dit, la plupart des gens ont une vision conventionnelle de la vie. Il faut avoir le courage de se détacher de tout, de toute norme. Il faut oser faire le grand bond dans le cosmos. Alors la vie devient infiniment riche. Elle déborde de dons, même au fond de la détresse. C'est vraiment un appel à l'espérance. Et je pense qu'elle était bien placée pour le dire.
Est-ce qu'on se quitte là-dessus? Ou est-ce que tu voudrais nous dire encore un mot sur bah peut-être justement on est en 2021, voilà, comment ça va se passer les prochains mois pour toi? Est-ce qu'il y a une idée qui va surgir peut-être tout à l'heure là, et tu vas te mettre dans un coin de bureau à écrire 3-4 pages et aller ensuite démarcher?
Alors mon idée là, c'est plus quand j'ai écrit ce petit texte, c'est la mi-temps. C'était vraiment une leçon de sagesse pour moi d'écrire ce petit texte. Il est trop long pour que je vous le lise. Et je me disais, en fait, ce qui est beau, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup développé, déployé, tu vois, au fur de... C'était ton ressenti, d'ailleurs, par rapport à ce que j'avais fait. Et aujourd'hui, je veux consolider. Consolider, non pas en marque-boutant sur mes acquis, toujours en renouveau, tout le temps en réflexion. Et donc, je veux continuer à développer des petites conférences, des petits ateliers pour ces personnes issues des migrations. Et peut-être, pourquoi pas, écrire un deuxième livre dont j'ai déjà le titre dans la tête.
Alors, est-ce qu'on peut avoir le scoop, Marie Desjardes de Carreau-Rue ou...
Alors, ce titre, ça s'appelle, que je trouve que la société, depuis quelques années, est un petit peu anxiogène. Et je trouve qu'il ne faut jamais oublier que c'était Chesterton qui disait, tu parlais de ma foi, qui disait la joie est le secret gigantesque du chrétien. Et j'en suis convaincue.
Ah bah, il y a Pina Bausch qui dit aussi, et j'adore cette phrase, moi, c'est « la joie reste la meilleure des solutions ».
Voilà, exactement. Eh bien, gardons cette joie et je vais essayer d'écrire un deuxième livre qui s'appellerait « Vous n'aurez pas ma joie ». Voilà.
Oh. Alors, bah, écoute, moi, je te propose de se saluer avec le sourire et toute cette joie que tu as partagée avec nous et les auditeurs auditrices de Radio Brogenette avec un Schubert, puisque c'est aussi dans cette culture dans laquelle tu as baigné hein, avec ce papa violoniste, c'est ça
hein, cette maman. Ouais, maman violoniste.
Maman violoniste, pardon. Donc, voilà, tu as choisi une fantaisie en fa mineur jouée par Lucas et Arthur Jussen. Donc, on se dit à très bientôt, Marie, et puis on essaiera de suivre un petit peu tes aventures. Et quand tu viens en Bretagne, surtout, tu viens nous voir.
Ah oui, avec joie. Vive la Bretagne.
Allez, kenavo.
Kenavo.